Bienvenue dans l'entreprise de nouvelle génération, le podcast du futur du travail en entreprise qui vous est proposé par Hola Spirit. Avec vous, nous allons découvrir ceux qui pratiquent déjà dans leurs entreprises pionnières ce futur du travail, ceux qui expérimentent de nouvelles gouvernances et explorent l'innovation managériale. Ils vont nous raconter leurs démarches, leurs succès et leurs échecs, les questions qu'ils se posent et la règle est claire, pas de langue de bois et une totale indépendance de ton. Avant de démarrer, un petit rappel. Le sommet de l'entreprise de nouvelle génération se tiendra les 26 et 27 mars 2020 au centre de conférence Pierre Mendès France du ministère de l'Économie et des Finances avec des intervenants de haut niveau venant d'une trentaine de pays. Des tarifs sont déjà disponibles pour les premiers inscrits. Cet événement sera aussi l'occasion d'une remise de trophées de l'entreprise de nouvelle génération avec l'ESSEC, Hola Spirit, Manpower, Octotechnologie et la Maïf. Des trophées auxquels vous pouvez postuler vous aussi si vous avez une démarche de gouvernance ou de management innovante. L'inscription se fait sur thenextgenenterprise.com. J'ai comme toujours à mes côtés Luc Breton, organisateur de l'événement avec qui j'animerai le podcast. Bonjour Luc.
Bonjour Emmanuel.
Et nous sommes avec Pierre Sinodinos, PDG fondateur de la société Conseil en Transformation Aneo, kitesurfer, informaticien autodidacte et donc entrepreneur. Pierre Sinodinos, pardon, bonjour, ravi de vous accueillir.
Bonjour Emmanuel.
Et pour commencer, donc on va peut-être parler de votre profil et de votre entreprise, profil atypique et une entreprise qui découle de votre expérience, de votre parcours.
Alors en fait, pas complètement parce que je suis un peu tombé dans le conseil par hasard. J'ai d'abord traîné pas mal mes pieds ou mes tongs, quand on parle dans mon milieu, sur la plage avant de me décider à rentrer dans une espèce de normalité. Et puis à l'époque, ce qui me passionnait, c'était la technologie et comment elle pouvait impacter le monde. Et donc je suis parti dans la technologie. C'est un petit peu comme ça que je suis tombé dans des sociétés de services, puis ensuite de conseil, pour enfin créer la mienne à un âge finalement assez avancé, c'est 38 ans.
Oui, bon, un n'âge pas trop avancé non plus. Donc en fait, cette société, elle porte donc des valeurs particulières sur l'organisation de l'entreprise. Elle est aussi organisée différemment et elle porte en particulier une vision sur l'innovation. Moi, j'aimerais bien qu'on parle de ça aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est une vision qui tourne autour de l'idée qu'on a parfois une innovation pour créer une entreprise et qu'ensuite, quand celle-ci croît, il devient difficile. Alors, c'est peut-être pas difficile, mais en tout cas, on a tendance à garder l'innovation au sein de l'équipe de démarrage et puis de ne pas embarquer tout le monde.
Ouais.
Je suis un petit peu confuse, mais c'est ça l'idée.
Vous avez raison. Alors, on peut parler de l'innovation, effectivement. Moi, j'ai un regard sur l'innovation assez particulier. C'est-à-dire que je pense que il ne faut pas parler d'innovation, sinon on tombe dans des injonctions paradoxales. C'est-à-dire qu'on pense à innover et on n'innove plus. Voilà, c'est une espèce de mantra qu'on répète comme ça et puis ça ne marche pas. Et puis j'ai une vision de l'innovation comme étant une espèce de fontaine de jouvence infinie parce qu'elle, en fait, elle dépend des individus et elle dépend d'un paramètre très particulier que j'appelle la diffraction de la pensée. C'est-à-dire que quand on regarde un problème, y a des gens qui ont naturellement la capacité à prendre le problème sous un angle que personne d'autre a pris auparavant. Donc ça, c'est les super créatifs, comme je les appelle, les Steve Jobs, tous ces gens-là qui voilà, ont vraiment vu le monde d'une manière différente. Et ce qui est sympa dans les nouvelles méthodes d'innovation, je pense au design thinking en particulier, c'est qu'on pratique l'interdisciplinarité et qu'on met un comptable en face d'un marketeur et que là, forcément, la vue de l'un va complètement percuter et bouleverser la vue de l'autre. Et là, on va ouvrir des angles, des espèces d'angles qui étaient des angles morts qu'on n'avait pas prévus à l'origine et de ça va jaillir l'innovation. Donc ça c'est assez super et assez réjouissant parce que ça veut dire que finalement, chaque individu, avec sa singularité et avec le fait qu'il a, parce que la singularité, c'est quoi ? C'est votre patrimoine culturel, c'est votre expérience de vie, c'est votre génétique. Tout ça fait que vous avez un prisme sur le monde qui est le vôtre et qui n'appartient qu'à vous. Et cette chose-là, finalement, quand vous la confrontez avec le prisme de quelqu'un d'autre, bah là, vous faites émerger cette diffraction de la pensée si vous savez vous écouter et si vous n'êtes pas dans des luttes d'égo. Voilà, donc ce qu'on a essayé de faire, nous, au sein d'Aneo, parce que c'est ce qui nous importe, c'est d'essayer que ce petit ingrédient puisse s'exprimer au maximum au profit de la valeur de nos clients. Voilà, c'est pour ça qu'on a travaillé une organisation plutôt aplatie. Et notre regard là-dessus, c'est que finalement, il y a beaucoup d'obédience autour de ces nouvelles formes de travail. Et nous, on a là encore une fois un regard un petit peu décalé. On pense que si les gens sont singuliers, bah, les entreprises et leurs organisations vont l'être aussi à un moment donné. Et que finalement, il y a des grandes inspirations de choses qu'on peut regarder. Mais finalement, une entreprise entre son business model, son lieu d'implantation, sa culture régionale, sa taille, enfin tout un tas de paramètres va faire que finalement l'organisation qui va bien fonctionner pour elle ne sera pas nécessairement celle qui va fonctionner pour l'entreprise d'à côté.
Et d'ailleurs, Pierre, je pense que c'est ce que vous avez voulu éclairer par l'initiative YouManage, au-delà même de ce que vous
absolument.
De ce que vous regardez de façon pionnière
ouais.
au sein d'Anéo.
Ouais, absolument. Effectivement, on a une initiative au sein d'Anéo qui s'appelle YouManage.fr et qui en fait collecte les innovations managériales qu'on peut trouver à travers le monde. Et on voit comme ça, alors c'est souvent l'exemple que je cite parce qu'il est, je trouve, assez ébouriffant. C'est une jeune entreprise de Californie qui fait ses augmentations de salaire avec un système de Tinder dans lequel vous avez tous les collaborateurs ont la tête de Luc et de Pierre qui passent sur le téléphone et puis ils disent voilà, Luc doit gagner plus d'argent que Pierre. Et derrière, il y a un algorithme qui reconstitue la pyramide des salaires. Donc c'est super intéressant. Il n'y a pas de jugement de valeur à avoir là-dessus, mais c'est excessivement intéressant de voir qu'il y a des gens qui ont pensé les choses différemment. Voilà. Et là, on est dans de la diffraction de la pensée. Et si on se fait enfermer dans des modèles préétablis, bah, finalement, on va un peu étouffer notre intelligence et notre créativité.
Mais alors, vous le dites, et puis on peut le comprendre, il y a quand même des éléments de base, parce qu'on peut pas, on peut pas créer une entreprise en se disant, bon, bah, enfin, peut-être que si, d'ailleurs, mais en se disant...
En tout cas, les startups ne se posent pas la question, elles y arrivent assez bien.
Et sur
elles le perdent en grandissant,
alors,
par contre.
Oui, c'est ça, parce que j'allais dire, toutes ne réussissent pas quand même. On sait qu'il y a un taux d'échec qui est assez fort. Mais est-ce qu'il y a quand même des bases derrière, qui sont peut-être d'ailleurs des principes de collaboration, des principes d'implication de gens différents dans une même équipe, qui permettent d'arriver à ce type d'innovation ou de forme d'entreprise?
Alors oui, alors là, vous touchez un sujet qui est, sur lequel j'ai beaucoup d'humilité, qui est en fait la transformation des organisations. Et ça... beaucoup de gens en parlent, en fait personne n'a la recette. Et donc moi j'ai un regard assez d'artisan par rapport à ce sujet-là. Donc effectivement, moi j'ai moi-même transformé mon entreprise pour l'aplatir. Donc je me suis heurté à cette occasion-là à vraiment beaucoup de difficultés, encore aujourd'hui d'ailleurs. Et puis j'accompagne beaucoup de clients dans cette...
Mais c'est pas une solution miracle, hein. On l'a compris dans le podcast, mais
ouais.
c'est pas parce qu'on aplatit la hiérarchie que tout d'un coup tout va bien.
Il y a beaucoup de difficultés, ouais. Et donc il y a malgré tout comme effectivement un certain nombre de principes de base qu'on peut garder à l'esprit pour essayer de faire que tout ça n'aille pas dans le mur, quoi. Voilà. Et puis une chose toute bête, c'est nous, on a une douzaine de principes de capitalisation là-dessus. Le premier, c'est de mettre un petit peu de sens et puis de s'y accrocher tout au long de la vie, quoi, pour éviter ce qu'on peut observer parfois au niveau du gouvernement ou des lois, c'est-à-dire des décrets d'application qui deviennent orthogonaux avec l'esprit de la loi, quoi. Si l'intention, c'est de faire quelque chose, il faut que cette intention soit connue de tous, partagée par tous, et puis à chaque étape et à chaque détail d'exécution, on vérifie bien qu'on n'est pas orthogonal à l'intention initiale.
C'est ça, pratiquement, ça veut dire qu'on est en permanence en train de se questionner, de se réinterroger sur le sens?
Alors, assez souvent, oui. C'est-à-dire que nous, on fait beaucoup, souvent, des feux de camp, des choses comme ça, collaboratives, dans lesquelles on se demande, mais pourquoi on fait ça? On oblige nos clients, j'aime à dire qu'on aide nos clients à deux choses, et je trouve ça assez noble, finalement, on les aide à penser. Ça veut dire qu'on les tire de temps en temps dans des endroits un petit peu différents pendant un temps d'une heure, deux heures pour les aider à prendre du recul. Et puis parfois, on a besoin de les aider à faire parce qu'ils sont en débordement. Donc c'est vraiment, nous, on joue toujours entre ces deux choses-là, entre aider à penser et aider à faire. C'est vraiment comme ça qu'on accompagne nos clients. Et il m'est arrivé il n'y a pas longtemps d'être en train de faire du brainstorm avec un comité de direction et puis de m'arrêter en me disant mais... En fait, j'ai l'impression qu'on fait fausse route. En fait, là, vous avez besoin que je vous aide à faire et plus que je vous aide à penser, quoi. Et effectivement, ils étaient débordés par l'exécution et voilà. Et l'exécution étant quelque chose de très compliqué, on a un adage chez Anéo, on dit les idées sont gratuites. Et c'est vrai. Vous voyez, là, on va en propager certaines à travers cette émission. Elles sont gratuites. Voilà, on en trouve partout, sous les sabots d'un cheval, sur Internet, dans les émissions de radio. Et la vraie valeur, elle est dans l'exécution. Et c'est là que ça pêche, en fait. Et donc, c'est là que nos entreprises ont besoin d'être aidées. Moi, j'ai cette métaphore. Je suis content quand, dans une entreprise, j'ai l'ouvrier qui me dit, Pierre, super, je suis content. Depuis qu'on a un wagon électrique, on a augmenté le débit global et surtout, j'ai plus mal au dos, quoi. Vous voyez, c'est cette idée que finalement, et c'est un peu ce que nous on a dans notre esprit, c'est-à-dire on est là pour aider les entreprises évidemment, puisqu'on est dans du B2B, mais moi ce qui m'intéresse c'est aussi les salariés qui sont dans ces entreprises, les hommes, les femmes, et si au passage je peux apporter de la productivité, mais aussi faire en sorte que les salariés travaillent avec plus de confort et de manière plus agréable, bah, c'est vraiment ce que j'essaye de réconcilier.
Alors, je vous ai interrompu du coup sur les principes de base. On reviendra bien entendu, parce que c'est la question centrale presque, c'est les hommes et les femmes et comment ils sont impliqués dedans. Mais sur quelques-uns de vos 12 principes de base, donc vous me parliez du sens en premier.
Oui, alors je pourrais vous parler par exemple de mettre du build dans le run. Alors qu'est-ce que ça veut dire le build dans le run? C'est que souvent quand les entreprises se transforment, elles font, et c'est bien, il y a des tas de gens valeureux là-dedans, mais elles construisent des directions de la transformation, un peu comme on a des directions d'innovation. Et puis ces choses-là, finalement, il y a une phrase dans le Lean Management qui dit « on fait une usine dans l'usine », c'est-à-dire qu'on fait une usine à transformation. En réalité, les vrais gens qui doivent se transformer, c'est les gens qui sont sur la chaîne de production. Et les vrais patrons de la transformation, c'est les dirigeants. Donc si on crée une chose à côté, on crée déjà de l'entropie entre cette chose-là et puis le reste du monde. Donc on a une opposition entre ce qu'on appelle le run, c'est-à-dire le day-to-day travail qu'on doit faire, c'est-à-dire que moi je dois produire des voitures, et puis des gens qui vous disent « non mais il faut se transformer ». Voyez. Donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut mettre du run dans le build. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, il peut nous être arrivé dans des endroits où des gens nous disent « on va travailler sur les valeurs ». Non, on va pas forcément travailler sur les valeurs. En revanche, on va vous faire travailler sur un séminaire d'intégration dans lequel on va faire travailler tous vos collaborateurs ensemble pour produire quelque chose qui vous ressemble. Donc, on va pas conceptualiser a priori les valeurs. Par contre, on va produire un objet activable qui va tout de suite apporter de la valeur et qui va être représentatif de cette culture d'entreprise parce qu'il va être coproduit à plusieurs. Voyez. Donc ça, c'est mettre du bulle dans le run. C'est-à-dire qu'on fait travailler les gens ensemble et on produit quelque chose que l'entreprise va garder et qui va permettre d'acculturer à sa propre culture des nouveaux arrivants dans l'entreprise. Ça veut dire ça, mettre du bulle dans le run. Bon, il y en a 12. Donc.
Mais ça, c'est presque. Alors, c'est un outil, parce qu'on en parle souvent des valeurs des entreprises nouvelle génération. Donc, ça, c'est un vrai outil pour imaginer ces valeurs.
Alors, sachant que c'est
et les partager.
C'est très compliqué parce qu'en fait, on a tous un tropisme, j'appelle ça le tropisme du consultant. C'est-à-dire que dès qu'on est sur un sujet, on veut s'inventer des besoins et se mettre en position méta par rapport à ce sujet-là au lieu de faire. C'est-à-dire qu'on est assez spécialistes, nous les consultants, de faire beaucoup de réunions pour expliquer comment on va travailler ensemble au lieu de travailler ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire et de produire des choses. Donc on passe parfois trop de temps dans des situations méta, à prendre du recul, à mettre des post-it sur les murs au lieu de produire des choses. Donc voilà, donc il y a plein de principes comme ça sur lesquels alors il y en a un qui est très puissant et je l'ai sous-entendu tout à l'heure, c'est de faire attention à l'équilibrage de la valeur entre la valeur qui est dégagée pour l'entreprise et la valeur qui est dégagée pour le salarié. Vous avez, par exemple, sur les sujets de productivité, vous avez eu 3 grandes obédiences dans l'histoire du travail sur la productivité dans les entreprises. Vous avez la première obédience qui remonte à plus d'une vingtaine d'années, dans laquelle vous aviez des consultants qui pratiquaient du lean management de manière un petit peu verticale. C'est-à-dire qu'il y avait des consultants qui venaient, qui regardaient des processus et qui disaient « Ok, on peut gagner beaucoup là, là, là et là avec les nouvelles technologies qui arrivent. » Et puis, en fait, après, on dépensait beaucoup d'énergie à faire ce qu'on appelle dans le conseil du change management pour que les salariés achètent cette transformation-là. Là, maintenant, on est dans une période de l'histoire dans laquelle tout le monde, il y a un truc énorme, tout le monde, c'est presque un dogme, mais là, je vais être un peu à contre-culture sur l'intelligence collective. C'est-à-dire que là, on active les mêmes consultants identifient les problèmes, sauf qu'ils ne réfléchissent pas tout seuls, ils activent les salariés qui sont dans les entreprises pour essayer de trouver des solutions. Et nous, on est sur le coup d'après, c'est-à-dire que nous, en fait, on ne travaille pas du tout comme ça. On va voir les salariés et on leur dit finalement, de quoi aurais-tu besoin pour mieux faire ton travail? Et ça change tout. Ça change que le prisme qui est pris, c'est l'expérience du salarié sur le terrain. Et la plupart du temps, ils vont dire, j'aurais besoin d'une paire de lunettes, j'aurais besoin d'un meilleur outil. Et en fait, cet outil qui va lui apporter du confort va aussi permettre d'augmenter la productivité par voie de conséquence. Mais l'inducteur de départ n'est pas la productivité, c'est de prendre l'angle de l'humain en fait. Donc vous voyez, il y a ces 3 progressions, et donc là on commence à arriver, il y a des gens qui par exemple font du design et entrent dans les problématiques comme ça, qu'est-ce qui peut améliorer ton travail? Et en fait on sort des choses beaucoup plus intéressantes qu'on ne le faisait avant. Et juste une petite parenthèse sur l'intelligence collective, il y a beaucoup de gens qui pensent que en fait, l'intelligence collective permet de produire des choses qui sont acceptées par les collaborateurs. C'est vrai, pas vrai. C'est-à-dire que l'intelligence collective peut produire des systèmes qui ne sont pas des bons systèmes et qui ne sont pas achetés derrière. En réalité, on achète des systèmes ou des choses qui répondent à des vrais besoins chez vous. C'est-à-dire, je connais personne qui soit presbyte à qui vous mettez une paire de lunettes qui va dire non, non, je veux la co-construire avec toi parce que je ne vais pas la prendre comme ça. En fait, c'est... Et donc là, on imagine... Alors, ce qu'apporte l'intelligence collective, c'est qu'on peut espérer qu'avec plus d'intelligence, si c'est correctement facilité, on va trouver des bonnes solutions. Mais la vraie réalité, c'est qu'un salarié va être très content de prendre un système si ça répond vraiment à son besoin. Moi, je me rappelle avoir facilité un atelier pendant avec... D'ailleurs, ce n'est pas une histoire à moi, c'est une histoire d'une de mes consultantes qui, pendant toute la journée, a fait de la facilitation. C'est-à-dire qu'elle a fait travailler l'intelligence collective du groupe pour faire en sorte qu'ils trouvent eux-mêmes la solution. Et à la fin de la journée, bon, ils n'avaient pas trouvé des choses très, très brillantes. Et elle a suggéré quelque chose. Et là, l'ensemble du groupe a dit « Mais pourquoi tu ne nous as pas dit ça ce matin ?» Voilà. Donc, on voit bien un peu parfois que l'extrême et le dogmatisme peut être contre-productif. Ce que les gens prennent, c'est avant tout des bonnes solutions. La question est comment est-ce qu'on fabrique ces bonnes solutions ?
Donc l'idée, c'est d'équilibrer entre ces différentes méthodes, parce que c'est pas non plus, j'imagine, demander à chaque salarié sa vision de son poste de travail ou de son fonctionnement, non, etc. Ça peut être un peu.
Je vais vous donner un exemple qui est très concret, qui fait la passerelle avec. Avec ce que Luc me demande de faire à l'occasion de son événement et qui est autour des entreprises à mission et de la loi Pacte. L'entreprise à mission, c'est une des conséquences de la loi Pacte qui vise à identifier les objectifs que l'entreprise va se donner, à avoir un comité des parties prenantes et puis un certain nombre d'indicateurs. Voilà, moi, je suis très méfiant des indicateurs parce que je pense que si le monde se réduisait à des indicateurs, ce serait assez super et ça nous faciliterait la vie.
Ça serait pratique.
Voilà, et je trouve que souvent, les indicateurs, au lieu d'augmenter notre intelligence, ils réduisent notre champ de vue. Voilà. Et puis, je me dis que ces indicateurs-là, finalement... un jour, ça va être le gasoil et le lendemain, ça va être autre chose. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va modifier les statuts tous les 4 matins parce qu'il y a un nouveau sujet qui va nous paraître plus prioritaire. Vous voyez, cette espèce d'agilité à mettre le doigt sur l'essentiel et puis à le remonter en disant ça devient l'urgence parce qu'on n'avait pas compris que c'était essentiel. Cette flexibilité-là, on ne va pas l'avoir sur ce système-là. Donc, on pourrait avoir un autre système qui serait de dire une fois par an, on peut lancer un grand sondage dans l'entreprise en disant... Dites-nous, vous salariés, vous qui avez des tas de capteurs, et là on s'appuie sur le capteur humain, on s'appuie sur la singularité des humains pour leur dire, dites-nous en quoi on est incohérent avec notre politique RSE dans l'entreprise. Et là je suis à peu près certain que vous allez produire toutes les incohérences de la planète, vous allez avoir le type qui va vous dire, je ne comprends pas qu'on veuille impacter positivement le climat et qu'on continue à rouler en gasoil. Vous allez avoir le type qui vous dit, je comprends qu'on aimait la valeur de transparence sur le mur, alors qu'en réalité, je n'ai pas accès aux chiffres de l'entreprise. Tout ça, vous allez voir ressortir, puisque vous pouvez faire des sondages, elles sont très bien le faire aujourd'hui, de manière anonyme ou présentielle. Et je peux vous dire que cette matière-là sera une excellente feuille de route sur la transformation écologique, durable des entreprises, plutôt que des indicateurs sur lesquels on va créer une entropie incroyable pour simplement arriver à les calculer, à les maintenir.
On va continuer sur ce sujet de la loi Pacte parce que vous êtes en train de travailler là-dessus. Donc l'idée, c'est que, selon vous, aujourd'hui, elle porte pas bien justement l'ensemble de ce que vous venez de nous dire, de ces idées, de ces modes de fonctionnement, etc. Et que vous voudriez réfléchir dessus.
Alors,
proposer d'autres choses.
Ouais, alors en fait, c'est pas tant la loi Pacte qui m'intéresse que l'intention qui est derrière. La loi Pacte, ça n'est qu'un des leviers pour essayer de faire en sorte que nos entreprises aient un impact sociétal et environnemental. Et d'ailleurs, moi, je rajoute humain. Je parle de RSEH parce que je pense que nous, on fait par exemple chez Anéo, on fait des BBL culture. C'est-à-dire qu'on vient parler de musique classique avec nos collaborateurs, etc. Parce qu'on trouve que certains ne sont pas assez...
BBL culture, c'est ça ?
Les BBL culture. BBL, c'est une des pratiques du monde digital qui est... ça s'appelle les brown bag lunch. C'est-à-dire que pendant le temps du déjeuner, on vient avec ces paniers américains, vous voyez, marrons, là, dans lesquels on a sa nourriture. Et on a un type qui va vous parler pendant une heure d'un sujet qui intéresse. Voilà. Et nous, on en fait autour de la culture. D'abord parce que c'est important, parce que bon, on ne va pas discourir sur la culture, mais c'est important aussi pour nos collaborateurs d'apprendre à prendre du recul sur les choses. Donc là, donc c'est pour ça que l'humain est aussi important que la société, que l'environnement pour nous. C'est peut-être même la première clé de voûte. Mais peu importe. Donc la loi RSE, c'est un des leviers mis en œuvre, effectivement. Et comme je crois à l'innovation, je crois à la singularité, je pense qu'il y a probablement des milliers d'autres possibilités, solutions pour arriver à faire en sorte que plus d'entreprises se posent ces questions-là, en fait. Parce que quand vous prenez l'ensemble des entreprises françaises, entre les grands groupes et puis les PME et les ETI, vous avez... classiquement, les early adopters, les gens qui sont déjà éclairés sur cette thématique-là et qui réfléchissent d'une part à planter des arbres, mais aussi à transformer leur business model pour être moins plus positif sur l'environnement ou la société. Vous avez un gros ventre mou qui sont des gens qui attendent un peu de voir comment les choses vont bouger et il suffit d'aller les rencontrer pour les faire avancer un petit peu plus vite. Et puis vous avez un paquet de gens qui de toute façon n'iront jamais, sauf quand ils seront contraints par la loi, quoi. Donc moi, je suis très humble devant les sujets de transformation d'entreprise, je suis très humble aussi devant la difficulté pour un gouvernement d'arriver à changer le pays et faire en sorte que ce gros ventre mou puisse aller un peu plus rapidement sur les sujets climatiques, environnementaux, etc. Et donc, c'est là-dessus que j'ai envie de travailler, de trouver des idées non pas post-it, mais activables. Alors, certaines vont aller dans le sens de la loi Pacte et vont permettre, par exemple, la loi Pacte, la notion de raison d'être, par exemple, est déjà, pour un littéraire, quelque chose de compliqué. Je pense que pour beaucoup de PME, ça va être excessivement compliqué de comprendre même le concept de raison d'être et puis de le formaliser. Donc, cette complexité, elle est inhérente à la loi. Et donc, du coup, je pense que c'est quelque chose qui ne rend pas la loi efficace, le fait que ce ne soit pas lisible. On a parlé tout à l'heure de l'entreprise à mission et de la manière dont elle voulait être implémentée. Donc là, on voit qu'il y a des choses à améliorer, mais l'intention qui est derrière, je la trouve formidable. Et moi, j'ai envie d'aller chercher d'autres idées par-devers la loi. J'ai envie de trouver des idées frugales. Les idées frugales, c'est des idées qui ne coûtent pas d'argent et qui ont beaucoup d'impact. Vous en avez une en ce moment qui est assez remarquable dans ce domaine-là, c'est la fresque du climat. J'en profite pour leur faire de la pub. C'est un espèce de jeu qui a été construit pour faire prendre conscience à des gens de l'importance des enjeux climatiques aujourd'hui. C'est excessivement impactant. Ça est en train de se propager dans Paris et en France de manière très rapide. On forme en une journée, même pas une journée, quelqu'un à être capable de faire des fresques de climat. C'est sans but lucratif. Voilà, ça, c'est des bonnes idées qui propagent et qui font avancer le monde.
Juste, alors moi, j'ai pas tout à fait compris. C'est-à-dire, ils font.
C'est un système pour acculturer des groupes de personnes, ou soit une personne individuelle, soit un groupe de personnes, aux enjeux climatiques.
Concrètement, juste en deux mots, ce qu'il faut.
Vous renverrai sur cette association pour vraiment voir ce qu'il en est. Mais c'est un jeu qui dure à peu près 2 heures, dans lequel on vous fait manipuler les enjeux climatiques.
C'est un jeu dans la ville ou dans un lieu. Oui,
c'est avec des cartes, okay. Avec sur lesquelles il y a les enjeux climatiques, sur lesquelles on voit les impacts et sur lesquelles vous placez vous-même les conséquences de ce qui va se passer. Et donc il y a une prise de conscience qui s'opère derrière, qui est assez incroyable. Nous, on est en train de le mettre comme étant dans notre séminaire d'intégration, de manière obligatoire pour tout le monde, pour que tout le monde ait conscience de cette chose-là. Et ce qui est intéressant dans ce qu'ils ont fait, c'est que c'est une association, et donc n'importe qui l'a subi en général en sort assez éclairé, a envie de devenir lui-même quelqu'un qui est capable de le faire et de le propager. Et donc ça part comme une traînée de poudre, et c'est très efficace en termes d'évangélisation. Voilà. Mais une fois qu'on a évangélisé quelqu'un, c'est pas pour ça que ça va être facile. Vous prenez une boîte qui a un business model qui brûle des énergies fossiles pour fabriquer ses produits, c'est pas trivial d'arriver à passer sur quelque chose qui soit différent. Arrêter de fabriquer des téléphones pour travailler plus sur acheter plus des téléphones qui soient recyclés, c'est pas évident. Donc on voit que là il y a une complexité derrière. Moi, ma préoccupation, c'est comment je peux aider j'allais dire le gouvernement ou l'État, mais peu importe, c'est la société. Et comment je peux contribuer à ça pour avoir des idées activables qui puissent être des vrais leviers pour faire en sorte que plus de chefs d'entreprise se préoccupent de cette notion d'RSE. C'est vraiment ça mon idée. Voilà. C'est qu'est-ce que... Et donc on espère sortir 10-15 idées vraiment disruptives et profiter de l'événement de Luc pour avoir un porte-voix autour de ça. Et on espère même derrière l'événement lancer une grande consultation nationale autour de ces idées-là. Voilà.
D'accord, donc qu'ils puissent du coup aller
amplifier, compléter, voilà, la loi. Parfois même trouver des choses radicalement différentes. Je ne vous dévoilerai pas les quelques idées qu'on commence à avoir dans notre panier, mais ce que je vous ai dit par exemple sur l'entreprise à mission, plutôt que des indicateurs contraignés, celles qui rentrent dans ce processus-là, à faire une consultation de l'ensemble de leurs collaborateurs tous les ans pour dire ok, en quoi on est incohérent avec l'environnement et avec la société et avec notre raison d'être. Et je peux vous dire que vous allez avoir une matière qui est une vraie feuille de route pour un dirigeant pour avancer.
Donc Pierre, pour résumer, on aura gagné collectivement si les entreprises de toute taille et donc la grande masse des entreprises en France en particulier, qui sont les PME, les TPE, les PME, se saisissent de ce sujet de façon simple, efficace, et qu'il puisse y avoir des relais partout sur le territoire pour amplifier le mouvement, en fait.
Ah, exactement. Enfin, je pense que je vais pas... Il y a des gens qui le font mieux que moi, mais mettre le doigt sur la criticité des enjeux climatiques aujourd'hui. Mais il est un peu temps de se préoccuper et il est un peu temps de sortir de c'est la faute de l'autre. Moi, quand je regarde des politiques parler, j'ai un désintérêt pour ça parce que je me dis, ils ne parlent pas pour résoudre un problème qu'ils n'ont pas identifié, ils parlent pour avoir raison. Moi, j'ai envie de parler pour résoudre un problème. J'ai envie de me mettre à côté d'un type de force ouvrier pour résoudre un problème ensemble, pas pour avoir raison contre lui.
De faire de la politique au sens premier du terme.
Je ne suis pas assez érudit pour répondre positivement ou pas à votre question. Je suis juste un petit patron de PME qui essaye de faire son travail et qui, à 55 ans, a envie d'avoir un impact un peu plus fort sur ce qui m'entoure. Moi, je veux juste résoudre des problèmes. C'est l'objet de ma boîte et c'est ce que je veux faire à travers ce truc-là.
D'accord. Et donc, alors, pour compléter un peu peut-être la question de Luc, c'est pas forcément enrichir la loi Pacte, c'est alimenter la discussion.
Encore une fois, je veux pas discuter, je veux venir avec des idées. La loi Pacte, encore une fois, pour moi, elle est le révélateur d'une préoccupation de notre gouvernement sur ces sujets-là, et je trouve ça formidable, et je trouve que c'est pas assez reconnu. Et moi, j'ai juste envie d'aider ces gens-là en leur disant, sur la loi Pacte, vous pourriez améliorer dans telle et telle direction et sur l'entreprise à mission. Et puis voilà, on a un petit paquet d'idées là, assez sympa, qu'on aimerait vous soumettre. Voilà, c'est ça que j'ai envie de faire, tout simplement. Sachant qu'effectivement, la finalité, c'est ce que Luc a très bien dit. Moi, mon sujet, c'est qu'on puisse aller plus vite pour que ce ventre mou qui est entre les early adopteurs et ce qu'on appelle les late adopteurs, justement dans la théorie d'innovation, ceux qui passent au smartphone quand on ne vend plus de téléphone à touche, que ceux-là, on puisse les évangéliser et les accompagner plus rapidement sur le sujet.
Et l'idée, Pierre, c'est vraiment de dire, le moins on a besoin de légiférer, finalement, le mieux c'est. Le plus la société civile est capable de s'emparer de ce sujet pour l'amplifier,
Soyons lean. Moi je pense qu'en fait, on est dans un système qui est d'une complexité incroyable. Et là, au-dessus, disait, plus il y a de lois, plus il y a de brigands. Ce qu'il voulait dire, c'est que plus c'est complexe. En fait, je pense qu'on a besoin de simplicité. Et en fait, on a tous les outils en main. Enfin, si moi, je décide demain, dans mon entreprise, je distribue à peu près 38% de mon résultat d'exploitation à mes collaborateurs sous forme soit d'intéressement, soit forme de bonus. Bon. C'est ma décision, j'ai pas besoin que la loi me pousse à faire ça, je l'ai décidé moi-même. Si une autre entreprise décide de le faire, de quoi avons-nous besoin pour vraiment changer les choses? On a besoin que l'État nous aide à le faire de manière bienveillante, mais on n'a pas besoin de plus de lois, plus d'entropie, plus de contrôle, plus de machin. Et sincèrement, l'histoire de l'humanité montre que il y a beaucoup, beaucoup de solutions à ces problèmes-là. Il faut juste les aborder avec un peu moins d'ego, avec un peu moins d'envie d'avoir raison contre l'autre, et puis de passer du temps, parfois, à prendre du recul et à se dire, mais quel est vraiment le problème qu'on veut résoudre? Et ça, c'est parfois pas simple. Ça prend du temps de faire ce travail-là. Nous, on le fait en entreprise et on le fait pour nos problèmes. Des fois, on revient plusieurs fois en disant, non, on n'a toujours pas trouvé le vrai problème, en fait. Vous voyez? Et donc, ça demande un peu de recul. Et puis, ça demande à vouloir travailler ensemble pour faire ce travail-là. Et c'est un peu ce que j'observe parfois est perdu, c'est que les gens n'ont pas forcément envie de travailler ensemble.
C'est peut-être l'idée de transformer aussi finalement l'État et son fonctionnement.
Alors je pense qu'effectivement il y aurait de la modernisation, beaucoup évidemment autour de ça. Moi j'ai travaillé il n'y a pas longtemps sur un business model d'une start-up, je ne veux pas la citer parce que je pense que ce n'est pas forcément le lieu. Mais quand on est arrivé au bout de l'exercice, on s'est dit, en fait, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on a disrupté l'impôt. C'est-à-dire qu'on a décidé nous-mêmes et collectivement d'où est-ce qu'on allait mettre de l'argent, au lieu de passer par toute la chaîne de collecte de l'argent, etc. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut supprimer l'impôt. Ça veut juste dire qu'on peut imaginer des dispositifs autres et que nous, citoyens et chefs d'entreprise, avons tout un tas de leviers pour le faire. D'ailleurs, si je décide d'aider des sportifs, par exemple, je disrupte la collecte d'argent qui est faite à travers la Française des Jeux et tout un tas de dispositifs qui remontent à l'État, qui décide de le redescendre et qui va le distribuer à des associations, des clubs sportifs, et ça va arriver dans la poche. Mais moi, je court-circuite ces systèmes-là. Voilà. C'est juste complémentaire.
Ça, c'est du court-circuit, en fait, des idées.
Voilà.
Écoutez, Pierre Synodinos, merci beaucoup.
Merci.
Merci, Luc Breton. Merci. Et merci à vous tous pour votre écoute. Retrouvez-nous dans les autres podcasts de l'entreprise de nouvelle génération avec d'autres experts et praticiens du futur du travail.